deuxième film de cette émission est russe lui aussi et n'est pas beaucoup plus positif. Il s'agit donc de Faute d'amour d'Andrei Zviagintsev, déjà remarqué avec Yelena en 2012 et Léviathan en 2014.
Oui Anastasia, et Faute d'amour, c'est l'histoire forcément allégorique d'un enfant perdu. Un enfant qui comprend que ses parents bientôt divorcés ne l'aiment pas et cherchent à s'en débarrasser dans quelque internat pour pouvoir partir chacun de son côté, refaire sa vie ou ce qu'il en reste. Alors le jeune garçon s'enfuit et disparaît. Le film va suivre les recherches menées par ses parents, aidées par des bénévoles, et leur terrible descente dans un abîme de rancœur et d'espoir perdu. Ça commence pas de façon très joyeuse avec le résumé, mais peut-être serez-vous euphorique dans vos avis sur ce film, alors je vous le demande tout de suite.
Eh ben, moi j'ai beaucoup aimé le film, je serais très brièvement dit. J'ai beaucoup aimé, j'ai préféré à ces deux films précédents qu'on a cités, et je pense que celui-ci c'est vraiment une réussite particulière. Il a atteint encore une hauteur dans son œuvre.
Occitane.
Bien, moi aussi, j'ai bien aimé ce film, même si paradoxalement, j'ai eu l'impression d'être un petit peu de marbre à la fin. J'ai pas ressenti une émotion absolument. Je me suis pas sentie terrassée par l'émotion de ce film, mais peut-être que c'était un peu le but. Il m'a semblé qu'il y avait quand même beaucoup de. C'était quand même un film qui était sur l'incertitude. On ne sait pas trop comment on se sent vis-à-vis de cette histoire, de cette mise en scène aussi, parce que c'est un film assez sombre, avec une sous-exposition qui traverse tout le film en termes simplement d'images et tout ça. Et il m'a semblé que du coup, ça maintenait le spectateur dans cette espèce d'entre-deux perpétuel vis-à-vis de cette situation. Voilà, et du coup, l'émotion n'est pas aussi évidente que ça à saisir. Voilà.
Alors moi j'ai beaucoup aimé aussi avec cette, je sais même pas si c'est une réserve, mais cette idée que le fait, enfin j'ai eu l'impression que les personnages étaient condamnés dès le début, enfin je pensais pas qu'une impression, et j'aurais aimé peut-être le ressentir un peu moins fort ou un peu moins vite, avoir moins l'impression tout de suite que c'était déjà plié, mais c'était aussi peut-être le but.
Oui, en fait, mais ce que vous dites, surtout Occitane et Marie, ça me fait dire que le film réussit complètement parce que effectivement, s'il arrive jusqu'à nous voler notre émotion après avoir volé celle des personnages irrémédiablement, c'est que quelque chose fonctionne. Et en ça, la mise en scène de Zviagintsev, bon, j'avais vu que Léviathan, mais où là, le déchaînement d'émotions est beaucoup plus violent à la fin, en effet. Mais on retrouve alors cette sous-exposition dont tu parles et cette photo toujours aussi splendide, mais on en reparlera. Et puis voilà, une espèce d'acuité, ça qui on sent que ça touche quelque chose quand même d'assez essentiel et qui réussit à mettre le doigt là où ça fait mal. C'est vraiment vraiment puissant et c'est vraiment cruel, je trouve. Alors tu le disais Marie, je pense entre autres à cette première partie où le père et la mère tentent d'être heureux et vont payer le prix de cette seule volonté égoïste d'être un peu heureux après avoir été malheureux pendant des années. Le bonheur est de toute façon égoïste, il est coupable, c'est un peu le présupposé assez violent du film, et ce qui est d'autant plus violent, et qui t'a peut-être gêné Marie justement, c'est que, étant donné que nous savons depuis le début que l'enfant s'est enfui pendant qu'ils essaient d'être heureux, on est complice, mais de l'accusation qui est portée sur les personnages dès le début. Et le réalisateur nous force vraiment, avec cette caméra très très tyrannique, à être complice d'une accusation extrêmement lourde portée sur ces personnages. Et en ça, c'est vrai que c'est un petit peu malaisant, mais qu'est-ce que ça marche bien.
Puis il me semble qu'il y a toujours quelque chose qui paraît être en gestation dans l'image, toujours quelque chose qui est au fond du plan, dans cette obscurité, ou alors tout simplement dans le ventre de ces femmes enceintes, parce qu'on en voit deux dans le film, où on se dit que ça va être éternellement cette même tragédie qui va se rejouer sans cesse, et qui est perpétuellement dissimulée quelque part dans le cadre, en fait. Bah, notamment la disparition de l'enfant, tout simplement, qui devient cette espèce de hors-champ absolu, et qui est tout le temps là sans l'être, parce que finalement, l'acteur, on le voit quoi 5 minutes, 10 minutes à l'échelle du film, enfin en temps de présence à l'écran, mais finalement il devient cette espèce de hors-champ absolu, tandis qu'il y a des tas de choses cachées au fond du cadre, dissimulées dans le fond et même au cœur de ce cadre, et qui demandent juste à surgir, mais jamais ce qu'on espère, c'est-à-dire l'enfant. Et c'est d'autant plus criant dans la scène du cadavre à la morgue, où il tente de reconnaître cet enfant, et finalement il ne supporte pas la vue, et ça ne servit à rien.
Mais moi, je voulais juste revenir sur tes mots pour l'accusation. Moi, je ne le ressens pas comme l'accusation, mais plutôt comme le regret. Parce que finalement justement, grâce au fait qu'on voit que la tragédie se répète et qu'on voit le père qui pose son enfant et qui s'en fout absolument, et on voit que la nouvelle famille, ça ne change rien. Justement, c'est le regret qui est créé par ce film et par leur titre. C'est juste que je voulais juste préciser, faute d'amour, c'est une traduction très très bonne. Parce qu'on a à la fois faute comme erreur et l'absence d'amour, mais le titre russe, c'est plutôt non-amour, en fait. C'est pas la haine non plus, mais c'est l'opposé à l'amour. Et c'est-à-dire que c'est la situation constante de non-amour. Et c'est en détail, mais c'est justement ça. C'est le regret que, par le biais de l'histoire de cette famille, par le biais des médias qui sont tout le temps là, qu'on voit la situation politique, qu'il y a la guerre, je ne pense pas que ça soit vraiment un film...
Et puis on est en 2012, les médias annoncent la fin du monde.
Bah oui, justement, c'est absolument, il regrette que... moi j'ai ressenti plutôt les sentiments du réalisateur, qui nous présente, regardez, on vit comme ça, il n'y a pas d'amour vraiment, oui. Et c'est partout, c'est pas que dans cette famille-là.
Oui. Je pense que c'est un petit peu le propos du film. Alors, cet égoïsme coupable qui s'installe et qui, alors, soit tue l'amour, soit s'installe parce que l'amour n'est plus là. Il y a une espèce de généalogie qui, elle aussi, reste toujours en hors-champ. Hein. On se fera son idée soi-même sur comment cette situation est arrivée, mais elle est là. Et cet égoïsme qui s'exprime un peu partout, il y a ces écrans un petit peu que les gens regardent, qui sont un petit peu la seule lumière qui se pose sur leur visage, ces corps aussi qui sont étriqués, qui sont enfermés dans des costumes, dans ce salon de beauté où travaille la mère, des corps qui sont toujours dans le paraître d'une certaine façon, qui, y compris dans l'acte sexuel, sont toujours un petit peu dans la possession de l'autre et jamais réellement dans un amour authentique. C'est pas pour rien que c'est une histoire d'enfance perdue, ce film, y compris chez les personnages secondaires. Je pense à la vieille grand-mère qui est complètement recluse.
Puis c'est très intéressant parce que le prénom Alyosha a été popularisé d'abord par Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Et en fait, c'est le personnage d'Alyosha, eh bien, il décide de renoncer à la religion pour la religion de l'amour, véritablement. Il décide de s'enfuir à un moment donné, justement, par amour. Et il a un désir de cet amour actif. Enfin, à un moment, il le dit. Et là, c'est vraiment ce que fait cet enfant, à défaut d'avoir cet amour actif, cet amour qu'on lui donne et qu'il peut rendre en retour. Eh bien, il décide de disparaître, tout simplement. Et c'est ce que dit le nouvel amant de la mère. Il dit, mais on ne peut pas vivre sans amour. Et c'est vrai, il disparaît et c'est tout. Parce que dans le retour, à un moment donné, la mère, quand le père revient, le retour de Zvagintsev, elle dit, il est revenu, c'est tout. Et là, c'est en fait, il a disparu et c'est tout.
Oui, c'est vraiment ce manque d'amour. En fait, ce film, c'est une démonstration du manque d'amour, du désastre même que ça peut provoquer. Et en ça, je trouve que c'est, évidemment, c'est extrêmement réussi, mais c'est ça qui m'a un peu, je sais pas si c'est vraiment gêné, mais une fois qu'on le comprend, on le comprend très vite parce que ça s'insinue absolument dans tous les plans. Tu disais Occitane, on voit, il n'y a jamais aucune échappatoire, même, je repense, un des tout premiers plans, on voit le visage de l'enfant avec la grille de l'école derrière, voilà, derrière lui, c'est grillé, c'est grillagé, je veux dire, c'est bloqué, c'est bouché, on voit toujours les fenêtres, l'extérieur à travers, justement, on voit ces fenêtres, ces gouttes d'eau, on voit jamais plus loin que la vitre. Et j'ai trouvé que voilà, c'était posé dès le début et c'était une démonstration brillante. Mais du coup, les personnages, peut-être, je ne sais pas si on peut dire, manquaient de nuances parce que c'est encore une fois, c'est ça, je veux dire, c'est ce qu'il a voulu faire. Mais à un moment, j'ai trouvé quand même un petit peu long et je me disais, ils n'évoluent pas. J'étais un petit peu gênée par ça, même si j'ai trouvé ça brillamment exécuté.
Alors les personnages te gênent, mais tu parlais de toutes ces grilles, de tous ces espaces. Je pense que ça serait peut-être bien de finir aussi par la géographie de ce film, entre guillemets, parce que Zvagintsev s'attache quand même toujours énormément au cadre dans lequel son film se passe. On se souvient déjà de Léviathan, ceux qui ont ne serait-ce que l'affiche en tête doivent voir à peu près de quoi je parle. Là, on a vraiment cette alternance entre des ruines et des intérieurs complètement aseptisés, mais en tout cas aucun endroit où on aurait vraiment envie de vivre. Et y a plus vraiment de vie, il y a ce bleu de l'image qui contamine les lieux. Et puis, cette impression qu'il y a ou des endroits qui sont trop vides ou des endroits qui sont trop pleins, mais vraiment une géographie, des espaces eux-mêmes qui deviennent assez invivables, à l'exception peut-être de cette neige complètement blanche qui a quelque chose d'une neige originelle qu'on voit au début et à la fin, mais qui est celle de l'enfance absente, quoi.
Ou à l'exception de la chambre d'Alyosha au début, que sa mère exige qu'il range au moment de la visite de l'agent immobilier. Et finalement, donc, il refuse de la ranger. Et à la fin, on voit des ouvriers qui détruisent et qui arrachent ses posters.
Terrible scène.
Et c'était le seul endroit qui paraissait habité d'une vie...
Une scène qui rappelle, encore une fois, la scène finale de Léviathan, d'ailleurs. On se souvient tous de ces tractopelles qui détruisaient la maison. Et là aussi, je pense que c'est quelque chose de très très fort. Enfin, symboliquement, on détruit la chambre, la maison, l'endroit où l'on vit réellement, pour laisser plus qu'un espace nu et ces appartements modernes et abominables où les deux ex-époux vont... on a l'impression qu'ils vont finir leur vie, mais est-ce que c'est encore une vie s'ils ont perdu l'amour?
Justement, ça devient comme ça un cercle vicieux, en fait, avec toutes les questions des générations. On ne sait pas d'où ça vient et où ça va arriver. Et en fait, je pense que ça, c'était un peu... le réalisateur a voulu nous prévenir et il faut faire attention, et il faut qu'on regarde... dans le miroir qu'il nous présente comme ça, si à un moment donné on ne se trouve pas dans cette situation où il n'y a plus d'amour.
Bon, eh bien, je crois qu'on est à peu près d'accord. Alors, Marie, de léger bémol, mais malgré tout, on va conseiller à nos auditeurs d'aller le voir.
Oui, 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 quand même.
Eh bien, allez-y donc, chers auditeurs. Ça s'appelle Faute d'amour, c'est réalisé par Andrei Diaghintsev, et c'est encore en salle, y compris chez nos partenaires des Cinémas Lumière.